Alors, bonjour et bienvenue à la Grande Bibliothèque. Je me présente Lynne Petitclerc de la Direction de la Programmation à Bibliothèque et Archives nationales. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour ce deuxième midi littéraire. Le premier midi littéraire s'est passé il y a à peu près un mois avec Dany Laferrière. Si vous n'avez pas eu la chance d'être présent, vous pouvez retourner sur le site Internet de la bibliothèque et réécouter ce qui fut une très, très intéressante entrevue. Donc, les midis littéraires de la Grande Bibliothèque prennent l'affiche à tous les mois, tous les jeudis, tous les deuxièmes jeudis du mois sur l'heure du midi. Il s'agit d'une nouvelle série de rencontres avec des écrivains francophones d'ici et d'ailleurs. Nous avons reçu donc le mois dernier Dany Laferrière, comme je vous disais, et aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir Gaëtan Soucy. Alors, ces rencontres sont animées par la journaliste et écrivaine Aline Apostolska, journaliste culturelle, chroniqueur à la presse et auteur. Ces rencontres se veulent être une invitation dans l'univers d'un auteur. Vous serez invité à la fin de l'entretien à poser des questions ou à partager des commentaires sur la rencontre. Prochainement, nous recevrons, dans le cadre de ces midis littéraires, Hélène Dorion, qui viendra le jeudi 12 avril, Jean-François Beauchemin, qui sera avec nous le 10 mai, et Jacques Godbout, qui viendra nous rencontrer donc jeudi, toujours jeudi, le 14 juin. Alors, sans plus tarder, je cède la parole à Aline Apostolska en vous souhaitant un très bon midi littéraire.
Bonjour, je suis ravie de vous voir aussi nombreux réunis ici aujourd'hui et je suis ravie aussi de poursuivre ces rencontres littéraires qui se font rares en ville et qui, j'espère, vous permettront d'approfondir non seulement l'univers d'un écrivain mais son cheminement. Ici, il est surtout question de cheminement puisque l'écriture n'est qu'un long cheminement vers soi-même au mieux. Alors voyons, et c'est ce qui nous intéressera, comment chacun de nos invités pourra en parler. Notre second invité est le second invité de cette série est un érudit, je tiens à le dire, et un intellectuel comme il n'en existe plus que rarement, je crois, à notre époque dominée par la recherche de spécialisation et la pensée unique. Depuis 1994, il a publié 4 romans, dont 3 premiers qu'il considère lui-même comme une trilogie du pardon. 4 romans, tous immédiatement acclamés par la critique, traduits dans 18 langues et couronnés de prix prestigieux aussi bien ici qu'à l'étranger. Ainsi, pêle-mêle, il fut lauréat ex aequo du festival du premier roman de Chambéry en France en 1994 pour l'Immaculée Conception, 8 décembre en France, Grand Prix du livre de la ville de Montréal en 98, Grand Prix de l'Académie des lettres du Québec en 1999, ainsi que 2 fois prix grand public de la presse et du prix France-Québec. Il a également été finaliste pour le prix littéraire du gouverneur général en 2003 et finaliste pour le prix Renaudot en France en 99. Et il a reçu le prix Nessim Habif en 2003 pour l'ensemble de son œuvre. Il a également écrit un texte pour le théâtre et récemment un conte métaphysique. Mais ce n'est pas tout. Outre l'étude de la langue et de la culture japonaise, cet écrivain éminent a complété une maîtrise en sciences, mathématiques et astrophysique avant de devenir professeur de philosophie, spécialiste de Kant au collège Édouard Montpetit. Je suis vraiment ravie d'accueillir aujourd'hui M. Gaëtan Soucy.
Bonjour.
Bonjour et merci beaucoup d'être là. Je disais que vous étiez enseignant au collège et vous quittez le collège, je suppose, pour venir nous rejoindre.
Oui, j'ai vraiment dû galoper là, jusqu'ici. Oui. Non, mais c'est correct, c'est d'enthousiasme que je suis venu.
Bon, très bien. Mais nous aussi, on est très enthousiastes parce qu'en plus, vous vous faites rare. Vous n'êtes pas un écrivain que l'on voit partout et qui, je dirais, parle trop de lui. Alors, vous savez, ici, c'est une série qui est d'abord une conversation entre nous, et puis ensuite une série qui est destinée vraiment à essayer de voir quel lien existe entre le cheminement de la personne et le cheminement de son œuvre. Mmh. Alors, la première question ressemble toujours à une question de police, et c'est nom, prénom, date et lieu de naissance, Monsieur Soucy.
Oui, je suis né un 21 octobre, au siècle dernier.
Oui, nous aussi.
Oui, pour la plupart. Hein.
Pour la plupart, pardon.
Oui, je suis né dans l'est de Montréal, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Sur la rue Moreau. J'appartiens à cette génération des années 60 pour qui, selon le slogan de l'époque, s'instruire était s'enrichir. Donc, il était plus important de faire quelque chose de sa tête, de son âme, que de faire de l'argent. Alors, c'est vraiment une époque totalement révolue. Et je suis le résultat... Je suis le résultat... paradoxal de cette époque-là.
Ça veut dire que vos parents, j'ai lu que vous étiez, je ne sais pas lequel par ordre, mais en tout cas enfant d'une famille nombreuse, ça veut dire que dans ce que vous dites que vos parents ont effectivement privilégié l'éducation de leurs sept enfants.
Oui, 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 parce que c'était véritablement une valeur dans le Québec de cette époque-là. Mmh. On n'arrive pas à s'y replonger, mais c'était vraiment... Écoutez, je viens d'un milieu pauvre, moi, là. Dans Hochelaga-Maisonneuve, ma famille était considérée comme des pauvres. Dans Hochelaga-Maisonneuve, comprenez-vous? À un moment donné, il y a un voleur qui est venu à la maison, puis finalement, il n'a rien pris, puis il a même laissé un 10 sur la table avant de partir. Ça veut dire?
C'est sûr que c'est effectivement une chose qu'on écrirait dans un roman, on ne croirait pas.
Mais on valorisait la culture.
Oui.
J'ai l'air de blaguer, mais c'est vrai. C'était quelque chose de très important. Mon père il est toujours, parce qu'il est toujours en vie. Merci mon Dieu. Mais mon père, c'était un prêtre défroqué, enfin un franciscain défroqué, et qui a gagné sa vie comme camionneur, donc un salaire de clavecin, mais c'était un camionneur qui avait disputé à 16 ans autour de la somme théologique de Thomas d'Aquin.
Mais franciscain, vous dites donc déjà dans sa propre conception du monde, la nécessité de transmettre et d'enseigner. Puisque c'est déjà ça,
ce qui est
dans l'ordre des franciscains.
Absolument. Non, mais c'était vraiment... Moi, j'ai eu la chance... enfin, je ne trouve pas que c'est très important d'en parler, mais puisque vous m'invitez, je vais parler, je vais parler de moi. Mais alors, moi, j'ai eu la chance de venir au monde le sixième enfant d'une famille de sept, dans une famille, donc... qui valorisait la culture, à savoir que mes parents se sont véritablement beaucoup, beaucoup privés pour pouvoir envoyer leurs enfants aux études, comme on disait. Et ce qui fait qu'on avait tout de même une bibliothèque assez substantielle à la maison. Donc, j'ai eu un contact très précoce et très libre par rapport à la littérature et à la pensée. Ce qui fait que, bon, par exemple, j'ai pu lire des choses comme L'étranger de Camus quand j'avais 10-11 ans. Oui, mais ce n'est pas parce que j'étais particulièrement doué, mais simplement parce que c'était là.
Oui.
Et qu'on ne nous interdisait rien de ce point de vue-là. Et ça, j'en suis vraiment très, très reconnaissant à mes parents. Et en même temps, j'étais un peu... Le fait que je sois le sixième enfant d'une famille...
de 7.
Oui, mais c'est que...
C'était parce que
je veux dire quelque chose d'important, il faut me laisser le temps, mais ça arrive. C'est que j'ai vécu dans mon enfance comme quelque chose d'extrêmement sérieux la tradition religieuse. Et ce qui me rend anachronique, même par rapport à ceux de ma génération qui n'ont pas eu... ce même rapport aux religieux que moi j'ai eu. J'ai appris à lire, par exemple, dans la Bible de l'abbé Crampon, ce qui est pas piqué des vers, qui est d'ailleurs une excellente traduction.
Mais c'est surtout que ça donne une avance considérable dans une appréhension du monde par rapport à d'autres, obligatoirement. Enfin, moi, je fais partie de parce qu'il faut dire des choses aussi, mais je fais partie de ceux, de celles, des mères qui ont obligé leurs enfants à lire les Évangiles, par exemple, l'Ancien Testament, parce que je considère qu'on peut pas comprendre la société dans laquelle nous vivons sans l'avoir lu, au même titre que d'autres livres de philosophie.
Mais je suis parfaitement d'accord avec vous. Notre civilisation. Souffre d'Alzheimer, ça c'est certain. Et c'est pas une métaphore là, c'est-à-dire c'est une
non,
réalité,
c'est réel.
Je dirais civilisationnelle. Mm. Alors, le monde, la tradition judéo-chrétienne qui est la nôtre en Occident en général, a été complètement oublié et continue d'influer d'une certaine manière, mais justement, elles influent, ces traditions-là, elles influent d'une manière qui sont ignorées de ce sur quoi s'opère cette influence-là. Et ça, je trouve ça assez inquiétant. Et on en voit d'ailleurs la manifestation dans des phénomènes sociaux comme le Da Vinci Code ou des trucs comme ça qui indique bien à la fois
un
une espèce...
On répond à un manque.
Voilà. On sent qu'il y a comme une volonté de savoir et en même temps, on se trompe tout à fait sur le sens de cette tradition-là parce que ça se confond avec les superstitions les plus... Il y a vraiment, véritablement des gens, je m'excuse de vous... Mais il y a véritablement des gens, notamment de mes étudiants, de mes étudiantes qui m'ont demandé candidement si ce qui était révélé dans un livre comme Da Vinci Code correspondait à la réalité, alors que c'est un assez médiocre roman de...
Oui, qui en plus dit pas des choses nouvelles qu'on a déjà dites beaucoup de fois. Je retiens une chose, Gaëtan, aussi essentielle, effectivement, vous aviez raison de dire que c'est important, mais dans notre civilisation du livre, parce que c'est ça en fait, les monothéismes, ce sont aussi des civilisations du livre, cette importance du livre vous est donnée dès l'origine. C'est pas banal. Quel souvenir avez-vous, je dirais, de votre rapport justement à la littérature? Étiez-vous un enfant qui était plus porté vers la littérature et les livres, la Bible, mais tous les autres qui étaient chez vous et qui vous étaient offerts? Ou étiez-vous plutôt un enfant à aller à l'extérieur, sociable, amical? Quel souvenir avez-vous de l'enfant que vous étiez?
Ben, j'étais les deux, c'est-à-dire que lire ne m'a jamais empêché de socialiser. Mais ce qui est certain, c'est que la littérature m'apparaissait comme quelque chose... Enfin, même pas la littérature, j'avais pas encore la notion ou le concept de littérature, mais les livres même me semblaient être quelque chose qui m'était destiné. C'est-à-dire, ça s'adressait à moi. C'était une lettre sur laquelle il y avait écrit mon adresse. Mm. Hein? Donc, je sentais que, de la même manière qu'il me fallait passer par telle ou telle étape, apprendre à aller en bicyclette, ou ou aller à l'école, il me semblait que les livres étaient là, m'attendant, pour que j'entre en rapport avec eux. Et je pense que ça rejoint, vous avez eu raison tout à fait de le dire. Il ne faut pas oublier que notre civilisation, j'entends de manière générale, et je sais un peu flou, la civilisation occidentale, mais je dirais peut-être même de manière générale tous les monothéismes,
oui,
quand ils sont vécus d'une manière authentique, sont d'abord et avant tout des rapports à un texte. Et c'est cela qui
et
est
à
en
son
train
interprétation,
de se perdre en ce moment.
Justement.
Et à son interprétation. Oui. Mais c'est à l'interprétation du texte que l'on doit, oui, l'université.
Tout à fait. Non, mais je tenais à dire... À quel moment, vous souvenez-vous, peut-être, avoir pensé que vous étiez destiné à la littérature? Si la littérature vous était destinée, y a-t-il eu un moment où vous avez pensé l'inverse? C'est-à-dire pouvoir à votre tour inscrire,
oui,
je
comprends,
la trace.
Je comprends le sens de votre question et justement parce que je la prends au sérieux, j'y réfléchis, mais je ne me souviens plus si c'est Raymond Queneau ou Régent Duchard, mais je pense que les deux ont dit la même chose à leur manière. C'est que tous les enfants écrivent. C'est de mon époque, en tout cas, mais c'est peut-être vrai encore aujourd'hui, là, pour peu qu'on n'ait pas affaire à des parents complètement débiles. Mais je pense que le premier mouvement d'un enfant, c'est par rapport à l'écriture, c'est de vouloir s'inscrire lui-même. Dire son imaginaire, mettre en scène ses rêves et tout ça. Bon, je tiens tout de suite à dire, et quitte à ce qu'on y revienne plus tard, que pour moi, la littérature n'a rien à voir avec le rêve et l'évasion. Là. Rien à voir avec ça, c'est même exactement le contraire. Mais bon, mais pour revenir à l'enfant, je pense que l'enfant, apprenant à écrire, est naturellement porté à s'inscrire à l'intérieur de cette tradition-là. C'est une façon pour lui de vouloir montrer qu'il est digne d'appartenir à cette communauté et qu'il est assez grand pour le faire. Sauf que la plupart des gens cessent d'écrire dans leur processus, bon, ce qui est un peu normal, mais il y en a certains qui persévèrent. Alors, dans mon cas particulier, mais je l'ai raconté à plusieurs occasions, mais sans doute que les gens qui sont ici, nos amis, non. Moi, je suppose que vous êtes des amis.
Mais oui.
Non, peut-être pas, ne l'ont peut-être pas entendu, parce que, étant donné que ça fait quand même un certain nombre d'années que je ne me manifeste plus publiquement, là, selon une volonté assez ferme, mais dans mon cas, ça a été la lecture d'un poème lorsque j'avais 13 ans. C'est un poème de Verlaine. J'avais lu deux vers, j'avais fait à croire à ma mère. Que... C'était « Colloque sentimental », qui est le dernier poème des fêtes galantes de Verlaine. Donc, alors, je me souviens très bien, j'avais lu ça dans l'édition de poche.
Oui.
Et j'ai gardé un attachement pour cette édition-là, parce qu'il s'est passé quelque chose entre moi et ce livre-là, et je tiens à sa corporéité, c'est-à-dire...
Oui, oui, mais moi, je crois que nous avons le même.
Voilà, j'ai Verlaine dans la Pléiade, mais je lis jamais
moi,
Verlaine
je l'ai pas dans la Pléiade.
Non, mais je le lis jamais dans la Pléiade, je le lis toujours dans cette vieille édition-là où il y a un très beau Watteau là, qui est sur la couverture.
Oui.
Et puis, alors, bon, c'était une journée où j'avais fait à croire à ma mère que j'étais malade, puis ma mère avait fait semblant de croire qu'elle y croyait. Donc, j'avais eu un après-midi de congé à l'école, et quand on a 13 ans, tout à coup, cet après-midi de libre apparaît comme infini. On se demande comment meubler ces 3 heures-là. Et finalement, j'avais été dans la bibliothèque familiale, qui était en fait la bibliothèque de mes grands frères, de mes grandes sœurs, qui à ce moment-là étudiaient déjà à l'école normale, ce qui était à l'époque l'école normale. Et j'étais tombé donc sur ce livre-là de Verlaine, et j'avais ouvert le livre à la fin pour voir quels étaient les derniers vers, et j'étais tombé sur « Tel ils marchaient dans les avoines folles, et la nuit seule entendit leurs paroles ». Et donc c'est ça, je suis en 1973, je m'en vais sur mes 14 ans, et ma réaction fut absolument immédiate et absolue. C'est-à-dire, c'est ça que je vais faire dans la vie, c'est ça. Je me suis senti, c'était de l'ordre de la vocation, mais pas une vocation par rapport à un clergé, pas une vocation par rapport à... Mais une sorte d'engagement absolu vis-à-vis moi-même.
Mais néanmoins, une foi, c'est-à-dire une foi, au-delà, je ne parle pas de foi religieuse ni spirituelle, mais une foi dans ce qu'elle a de l'élan premier et créateur. Tout à l'heure, et puis Dieu sait si la littérature, et c'est aussi le fait de se réécrire.
Oui, bien sûr.
De se réécrire. Est-ce qu'on doit chercher dans cette enfance finalement assez magique, il y a quelque chose d'un peu à la fois très terre-à-terre et très au-dessus du terre-à-terre et du quotidien, un peu magique, la prédominance des thèmes récurrents, par exemple, de l'enfance, de la gémellité, mais aussi de cette confrontation à l'absurde de la vie dans ce qu'elle a à la fois d'absurde et d'inexorable. Est-ce qu'on doit chercher vraiment dans votre enfance la source de ça?
Ben, ce que je pourrais dire sur mon enfance, c'est que d'abord, c'est l'enfance qui m'intéresse, c'est pas la mienne. D'une certaine manière, je ne m'intéresse à l'enfance que dans la mesure où ce n'est pas la mienne. C'est-à-dire, moi, ça n'intéresse personne. C'est un autre type de rapport qui doit s'établir avec... c'est un autre type de communication qui doit s'établir avec le lecteur. C'est-à-dire que il doit se dégager quelque chose comme l'universalité de toute enfance, qui est bien au-delà en importance, en termes d'importance, qui est bien au-delà de mon petit moi narcissique. Et c'est pour ça que Enfin, j'éprouve une certaine irritation par rapport à une certaine mode littéraire actuelle qui ce qu'on appelle l'autofiction, des trucs comme ça, et qui consiste stupidement à parler de soi, de sa vie sexuelle, de la façon dont on fait la soupe aux poireaux.
Parler de soi dans un livre, ça, c'est en faire un personnage, donc c'est le faire disparaître aussi.
Non, mais c'est plus que ça. Il y a Deleuze, Gilles Deleuze, le philosophe, qui est, auquel je n'adhère pas toujours là, d'un point de vue philosophique, mais je pense que il avait tout de même approché quelque chose d'assez intéressant lorsqu'il parlait. Il avait tenté d'établir un nouveau concept qui serait celui du percept. C'est-à-dire que lorsqu'on pense à notre enfance, on n'y pense justement pas comme à un récit. Le récit se construit toujours de manière a posteriori, un peu comme on le fait. Je vous dis, je suis né à tel endroit, ma famille avait subi...
C'est l'histoire de votre enfance.
Voilà, ça ressemble à un récit. Mais qu'est-ce qui nous reste véritablement de notre enfance? Ce sont des perceptions, des flashs, des douleurs, des joies extraordinaires. Il y a des moments de joie qu'on ne reconnaîtra plus jamais de sa vie, qui nous viennent de l'enfance. Et c'est ça que Deleuze a tenté d'identifier, de cerner par le concept de percept, la notion de percept. Et une des grandes auteurs de ce point de vue-là, c'est Nathalie Sarraute.
Oui.
Hein? Parce que Nathalie Sarraute, elle ne nous raconte pas niaisement son enfance. Du genre, ah, que je m'ennuie de cette sucette que je dégustais.
Non.
Et puis, l'odeur de, je sais pas trop. Non. Il n'y a aucune espèce de nostalgie narcissique dans les textes de Sarraute à propos de l'enfance. C'est justement d'essayer de saisir l'essence de toute enfance dans cette extraordinaire densité et intensité qui caractérise les perceptions que l'on a comme enfant.
Mais c'est aussi elle. On va revenir sur l'impact.
Mais je ne suis pas sûr que ça les intéresse. Là, mais enfin,
c'est... Bien sûr que oui. Regardez, ils notent.
Non, mais je suis toujours en train de dire à mes étudiants, vous me suivez?
Oui.
Oui, ça peut aller. Bon.
Ne vous inquiétez pas, ils vont suivre.
Alors, il y a ceux qui ont déjà très, très bien compris, je le vois, qui ont très, très bien compris ce dont je parle. Et il y a les autres qui vont, à un moment donné, mais ça va prendre quelques décennies, se dire, oui, c'est vrai, c'était pas bad ce qu'ils disaient.
Ils vont se rappeler
mais on les aime tous.
D'une perception de vous à cette époque-ci. Oui. C'est aussi Nathalie Sarraute, mais on va revenir sur la littérature, je voulais juste dire ça, qui avait un point de vue sur la psychanalyse qui était très net, qui était de dire que si elle ne voulait surtout pas, elle pensait qu'un écrivain ne devait jamais aller en psychanalyse parce que sinon il n'aurait plus la capacité de restituer son enfance.
Attends, et elle avait, qu'est-ce que vous me dites?
Je vous dis que Nathalie Sarraute a dit, elle avait un point de vue très précis sur la psychanalyse et l'écrivain et la psychanalyse en disant qu'un écrivain ne devrait, selon elle, jamais aller en psychanalyse car il ne pourrait pas.
J'avais compris le contraire. Et là, je me disais, je ne comprends plus rien à Nathalie Sarraute.
Non, bien sûr. Il ne devrait jamais aller en psychanalyse car il ne pourrait pas restituer la perception de son enfance.
Moi, j'ai fait un mois de psychanalyse dans ma vie, puis ça a été une catastrophe. Mais
ici, on est dans une.
Non, mais je ne vous raconterai pas ce que j'ai dit. Ce n'est pas ça l'idée. Encore une fois, il ne s'agit pas de parler de moi,
non.
Mais de parler de l'expérience de l'analyse. Non, je pense que c'est intéressant parce que... Alors, c'était terrible parce que... Alors, un des problèmes que j'avais à cette époque-là, c'est que j'avais été... alors, je sortais d'une histoire d'amour qui s'était... soldé par un échec catastrophique. Et j'avais besoin d'aide. Et puis, je me suis retrouvé donc dans un processus de psychanalyse. Et un des problèmes qui était le mien à ce moment-là, c'était le manque d'argent. Parce que cette relation-là, pour une m'avait plus ou moins ruiné. Parce que, bon. Et je me rendais chez un type qui vivait dans un château à Outremont. Et puis, je lui donnais 150 piastres deux fois par semaine pour dire des choses que je savais déjà. Non, mais tu sais...
Vous savez que le rapport à l'argent est au centre de la psychanalyse,
non, mais,
en plus.
T'sais, j'imagine que... pour certaines personnes, ça peut être un étonnement d'apprendre que j'ai peut-être une relation problématique avec ma mère. Mais moi, ça faisait 30 ans que je savais ça. Tu sais, découvrir la parole. Oui, tabarnak, la parole, tu sais, j'ai pas à découvrir ça. Alors non, ça a été horrible. J'ai abandonné cette expérience-là qui m'est apparue une escroquerie sans nom.
Ah, c'était un aparté.
Mais dans mon cas, là, je m'empresse de dire que ça peut être important pour certaines personnes. Mais un écrivain digne de ce nom, même Freud reculait devant ça. Il disait, ces gens-là n'ont pas besoin de nous. C'est nous qui devons être oui, à l'écoute de ces gens-là.
Mais c'est ça, mais parce que Nathalie Sarraute n'avait pas non plus un point de vue général sur la psychanalyse.
Non, il s'agit de
l'écrivain. Je voulais...
je m'empresse de le dire, c'est tout ce que j'en dirais, mais un écrivain comme Pérec a tiré beaucoup de choses de son expérience psychanalytique.
Oui, mais il y a d'autres exemples, on en connaît.
Et Beckett aussi. Oui. Mais Beckett, il l'a tiré, lui aussi, d'un échec. C'est qu'il s'est dit... Écoute, ça n'a plus d'allure, là. Faut faire autre chose là, que parler.
Il y a une chose qui me fascine dans votre parcours, pour revenir à votre parcours. C'est effectivement... Donc, vous nous avez parlé de l'importance de la littérature. J'étais vraiment heureuse de l'entendre parce que je me posais cette question. Étant donné les choix que vous avez faits, à un moment donné, vous dites à 13 ans, vous tombez directement l'inscription de ce que vous voulez faire. C'est écrit là, dans le livre de Verlaine. Et puis, à un moment où vous devez faire des choix, d'études. Et je l'ai dit tout à l'heure dans ma présentation, parce que pour moi, c'est très important c'est comme ça que moi, je vous perçois, mais on a beaucoup perdu aujourd'hui autour de nous ce qu'on appelle en France les esprits universels, c'est-à-dire ceux qui sont à la fois des érudits en sciences, en philosophie, en belles lettres, avec cette capacité à embrasser les trois, ou ce que les Anglais appellent Renaissance Mind. Mais comment vous avez-vous fait ces choix à la fois d'aller très loin, jusqu'à la maîtrise dans vos études scientifiques, puis philosophiques, puis en même temps, finalement, de devenir écrivain? Donc, c'est quand même un champ très vaste, et tout en vous intéressant à la culture japonaise. Alors, tout ça, c'est aussi très tôt, parce que c'est votre vingtaine.
Mais ça participe, à mon sens, d'un projet cohérent. Enfin, je ne sais pas s'il était pertinent, mais enfin, il était certainement cohérent. Mais il faudrait que je reprenne les choses...
Mais allez-y.
Depuis un début, du moins du point de vue conceptuel, moi je pense qu'un artiste et a fortiori un écrivain doit avoir une démarche cohérente. L'écrivain, ce n'est pas un cheval fou lâché à l'épouvante. Mm-hmm. À l'intérieur d'un langage.
Oui, contrairement à ce qu'on croit.
Contrairement à ce qu'on valorise.
Oui, ce qu'on valorise, oui.
Hein? Bon. Je vais vous dire, depuis... Est-ce que j'ai un devoir de réserve? Je ne sais pas. Mais mettons que mes expériences professionnelles m'ont amené dans les dernières années à fréquenter de manière particulièrement particulièrement fréquente, là, ça passera pas là, mais enfin vous comprenez ce que je veux dire, je suis fatigué, je suis
à 3 heures de cours.
Assidu, voilà, assidu. J'aime beaucoup. Bon. Et le fait est que donc j'ai eu à fréquenter des œuvres, des premières œuvres. Et il y en a peut-être ici parmi nos amis qui ambitionnent de faire une œuvre, qui sont jeunes peut-être. Et ça me prend à peu près 3 paragraphes, 45 lignes, pour me rendre compte si j'ai affaire ou pas à quelqu'un qui est capable d'être un écrivain. Et immanquablement, je sais si la personne a lu Platon, Kant, Descartes, Schopenhauer ou pas. Puis ça fait une différence. Parce que Beckett, Joyce, Kafka, c'était des gens qui avaient lu ces auteurs. C'est-à-dire, il y a une profondeur philosophique qui correspond à une volonté de penser fondamentalement le monde qui me semble être absolument essentiel, nécessaire et non suffisant d'ailleurs, parce qu'il faut autre chose, il faut aussi, mais qui me semble absolument essentiel et nécessaire pour qui veut devenir un écrivain. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'à l'âge de donc 13 ou 14 ans, j'ai su que j'allais devenir écrivain. Bon. Maintenant, il y il a fallu apprendre à se connaître un petit peu. J'ai commencé comme tout le monde par faire des poèmes, ce qui a été d'ailleurs une expérience inouïe parce que j'ai dû apprendre toute la prosodie française, c'est-à-dire les règles de la césure, et tout ça par moi-même. C'est d'une façon tout à fait autodidacte que j'ai appris ça parce qu'on nous apprenait pas ça à l'école. Ce qui fait que les gens, ils savent pas lire. Les gens s'ennuient à lire une pièce de Racine parce qu'ils savent pas comment la scander. C'est aussi stupide que ça. Hein? Bon. Mais bref, j'ai compris assez rapidement que je n'étais pas un poète, que j'étais un romancier. Et là, je me suis dit, bon, ben, un écrivain de fiction, il y a des expériences fondamentales qu'il doit faire. Il y a un certain nombre de choses qu'il doit connaître, c'est-à-dire qu'il doit connaître un certain nombre d'expériences pour pouvoir être en mesure, peut-être, de se risquer à la fiction.
Mais
j'y arrive, et je m'excuse encore une fois de vous interrompre. Alors, la science était un aspect absolument fondamental du monde dans lequel je vivais. Et il fallait que je sache. Et voyez, j'étais un esprit à 13-14 ans ému par la poésie de Verlaine, donc une poésie qui relève du flou, qui relève de... Alors, j'avais pas des prédispositions particulières pour la science, mais je me suis dit, il faut que je passe par ça. Une autre expérience qui me semblait essentielle à vivre, c'était l'expérience d'être l'autre. D'où le fait que je me suis consacré durant des années, et avec un sérieux que vous ne pouvez pas vous figurer, à l'étude de la langue et de la littérature et de la culture japonaise. J'ai été vivre au Japon, tout ça. J'ai vécu, parce qu'il me semblait essentiel pour l'écrivain que je voulais être, de vivre cela, l'expérience d'être l'autre.
Oui, d'être dans l'ailleurs avec un grand A.
Voilà, c'était moi que les enfants pointaient du doigt. Oui. Et j'ai vécu dans le Japon.
D'être l'étranger
dans le Japon,
aussi.
J'ai vécu à Hérouville, là, au Japon. Moi. Alors, c'est vraiment, les enfants, ils touchaient de la peau blanche. Là. Bon. La philosophie, parce que je croyais que, et je crois encore, qu'elle est pérenne, c'est-à-dire, ce n'est que par la réflexion philosophique. Et la réflexion philosophique doit nécessairement passer par une méditation des grands auteurs de la philosophie. Et ils ne sont pas si nombreux, vous savez. Il y en a une douzaine là, depuis 2500 ans. C'est quand même pas terrible, là, ça.
Oui, non.
Bon. Et ma formation, donc, aussi en littérature, qui était bon, parce qu'il fallait tout de même que je réfléchisse aussi sur mon métier. Alors donc, ce qui semblait peut-être un peu erratique, bon, ma mère s'affolait un petit peu, elle dit, bon, tu vas en sciences, tu t'en vas au Japon, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Mais ben, j'ai fait de ma vie ce que voilà, j'ai fait le tour du monde, j'ai écrit des livres que j'aime, mais... C'est-à-dire, j'ai écrit des livres que j'aime. Ils vont dire, quelle vilaine satisfaction. J'ai aimé écrire les livres que j'ai écrits, c'est ça que je veux dire.
Mais
surtout.
Si j'entends, j'apprends, c'est pour moi passionnant, j'apprends que vous vous êtes méthodiquement formé à devenir écrivain, selon votre vision.
Ben, encore là, méthodiquement, c'était plus de l'ordre de l'intuition. C'est-à-dire que je voulais... de ce point de vue-là, rétrospectivement, je me suis dit, si j'avais voulu être plus méthodique que ça, j'aurais passé aussi par un approfondissement de ce qui se passe dans le monde des affaires, dans le monde de la finance et tout ça.
Oui.
Bon. Et ça me manque. Non.
Oui, non, c'est vrai.
Non, mais ça
c'est
me manque.
Possible, mais bon, c'est possible.
Ça me manque, c'est-à-dire qu'il y a une dimension de la réalité que je peux pas exprimer qui est celle-là.
J'ai l'impression de comprendre là. Je vais vous dire ce que moi j'avais cru comprendre en lisant votre biographie et en me posant des questions. Justement.
Oh, on a écrit une biographie de moi.
Non, enfin, je veux dire, on lit des tas de choses sur quelqu'un.
Oui,
puis ça fait un espèce
genre,
de...
comment ça s'appelle,
et en tout cas, par rapport à vos études et à l'aboutissement, je me suis dit...
C'est quand on lit quelque chose sur Wikipédia, hein, sur Wikipédia à propos de soi, là, qu'on comprend qu'il faut se méfier de Wikipédia, mais enfin...
Non, c'est une interprétation. Je me disais que vous aviez cherché à comprendre le monde par de différents angles et différents spectres, et puis que finalement, vous aviez trouvé dans la littérature, mais pas seulement dans la littérature, parce que vous avez deux activités principales, celle de transmettre et d'enseigner, et puis celle de donner à voir ou à lire ou à comprendre par la littérature, mais on ne sait pas ce qu'on donne quand on écrit finalement. C'est aussi une transmission, mais à part qu'on la maîtrise moins.
Je perds mes cheveux, c'est effrayant. Si je me passe la main dans la tête, poil comme un chat. Là, je vais être chauve dans 3 semaines. Là. Non, c'est parce que vieillir.
En tout cas, il en est ici 2 heures seulement.
Mais je vais répondre. Je vais répondre à votre question. Il s'agissait pas pour moi de, en passant par les sciences, en passant par l'étude d'une culture qui m'apparaissait à la fois attirante et radicalement étrangère, comme le Japon. Là, a été pour moi. Alors, il ne s'agissait pas d'appliquer des grilles. C'était. Alors, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'était plus intuitif que méthodique. C'est a posteriori que je me suis rendu compte que ça correspondait à mon désir profond d'être écrivain. C'est quoi? J'ai oublié la question.
Non, c'était juste ça. Je me disais juste que moi, ma vision à moi, c'était que vous aviez cherché à comprendre le monde.
Non. Alors, oui, voilà, j'en
retrouve. Et ensuite, à le transmettre, à le restituer d'une certaine façon.
Oui, oui, mais voilà. Donc, il ne s'agissait pas pour moi d'accumuler des grilles de lecture possibles du monde. Il s'agissait moins de cela que de former ma sensibilité. Je pense que c'était ça qui était important. Et voilà, un artiste, c'est d'abord et avant tout quelqu'un d'intuitif. Sinon, pourquoi il y aurait des artistes là, si ce n'était pas des gens qui sont d'abord et avant tout intuitifs? Mais on n'intuitionne pas non plus dans le vide total. C'est-à-dire qu'il faut avoir formé son intuition jusqu'à...
Mais c'est ça que je retiens. Et franchement, je trouve ça suffisamment singulier pour insister là-dessus. Il y a d'abord cette extraordinaire curiosité du monde, parce que pour être toujours l'étranger et vouloir se mettre dans cette position-là, il faut effectivement avant tout de la curiosité. Et puis d'autre part, une mise en pratique. Ouais. Une mise en pratique, une confrontation physique avec... Parce que vous ne dites pas simplement, tiens, je vais m'intéresser aux sciences. Non, vous allez jusqu'à la maîtrise. Vous ne vous dites pas, oh oui... Moi, Daniela Ferrière, par exemple, me dit toujours, pour moi, l'ailleurs, c'est le Japon. Mais il ne va pas se confronter physiquement au Japon.
Ouais.
Alors que vous, oui. Donc, ces deux choses-là me paraissent essentielles. La curiosité,
un divorce, là, je vais vous dire que ça vous confronte à une autre culture, pas à peu près, mais...
Mais donc, quelqu'un qui s'engage physiquement, parce que c'est un engagement physique aussi dans la littérature. Et on a l'impression, quand on vous lit, qu'il y a un engagement physique, parce que ça fait un effet physique en retour.
Donc, il est certain qu'on écrit avec son corps. C'est-à-dire, ça a l'air d'une vérité un peu banale, un peu rabâchée, d'ailleurs, par une certaine tradition de la critique française des 30 dernières années, c'est-à-dire la primauté du corps, etc. Et justement, ce que l'on évoquait tout à l'heure sous le terme d'autofiction participe de cette profession de foi à propos de du corps comme lieu fondamental de l'écriture. Alors, c'est vrai, ça, cette chose-là. Mais, vous savez, un artiste, d'après moi, C'est d'abord et avant tout quelqu'un qui se pose des problèmes. Je suis le papa d'une jeune fille qui a 15 ans, qui a vécu des difficultés, mais qui a un talent certain pour le dessin. Et son talent pour le dessin me... Bon, évidemment, c'était bon, les dessins qu'elle me montrait. Je voyais bien qu'il y avait là une patte, un coup de plume et tout ça. Mais ça pourrait être juste simplement l'expression d'un talent vide, sans être nécessairement l'expression d'un tempérament réel d'artiste. Mais j'ai compris qu'elle manifestait un tempérament réel d'artiste quand j'ai vu les problèmes qu'elle se posait. C'est-à-dire, comment faire coordonner les mains et les yeux, par exemple. Vous savez, parce que vous êtes une grande critique, je veux le dire, une grande critique de la danse. Vous savez le genre de problème que se posent les danseurs, le chorégraphe, hein? C'est vraiment des questions qu'on se pose. Comment on va agencer les corps? Comment on va agencer le geste avec l'intention? Comment les yeux vont correspondre avec l'expression du corps? C'est vraiment des problèmes. C'est-à-dire qu'on se demande, mais comment est-ce qu'on va réussir à faire ça? Eh bien, je pense que l'écrivain, d'une certaine façon, aussi, pour autant qu'il soit un vrai écrivain, se pose d'abord des problèmes. Des problèmes narratifs, c'est-à-dire... pas Baudelaire, Flaubert disait, j'ai écrit... Madame Bovary pour susciter l'impression du jaune. Eh bien, oui, c'est vrai. Et je suis certain que Kafka se posait aussi ce genre de problème-là.
Hein? Tu as l'impression du gris.
Ben, écoutez, tout le monde a fait une expression, tout le monde a fait une expérience, pardon, d'un univers kafkaïen. Il suffit qu'on soit dans une situation un petit peu hors de l'ordinaire. Mettons, à 2 heures du matin, on descend du taxi, puis on a à traverser un terrain vague où se trouve une usine. Mm-hmm. Et là, il y a quelque chose de qui est à la fois impalpable et très, très réel, perceptible. Ben Kafka, c'est celui qui se demandait comment rendre cette impression-là? Et ce qui est extraordinaire, c'est que pour rendre cette impression-là, que par exemple, une pochette, juste pour donner, c'est ça, une illustration de ce que je veux dire, la pochette du disque de Pink Floyd, là, le plus gros disque qu'ils ont vendu, là, comment ça s'appelait? C'est le disque qui s'est le plus vendu au monde. Enfin, vous aviez cette photo d'usine qui était là. Il chantait Monet là-dessus, des trucs comme ça. Mais c'est une photo kafkaïenne. Mais elle est kafkaïenne parce que Kafka a inventé un certain regard là-dessus. Et j'oserais dire que Kafka a inventé une façon de regarder des constructions architecturales qui n'existaient pas encore à l'époque où il vivait, et que c'était ça le problème qui se posait. Et pour réussir cela, il a eu recours à des choses comme, supposons l'histoire d'un homme qui est accusé de quelque chose qu'il ignore et qui ne parvient jamais là. Alors, ça, c'est un lien extraordinaire. Là, j'ai peut-être l'air de parler, là, mais je vous jure que c'est ça qui fait qu'on écrit un livre. C'est quand on voit tout à coup une relation comme ça. Hein? C'est-à-dire, quel rapport y a-t-il entre une grenouille qui chante, la démolition et l'extraordinaire cruauté de New York? Ça a été le problème qui s'est posé à moi. Et je ne l'ai pas traité d'une manière théorique, là. Hein, j'ai pas fouillé dans des revues pour savoir, bon, ben, est-ce qu'on établit des problèmes entre une grenouille qui chante et puis le crash économique de 1920? Mais j'ai senti en moi qu'il se posait là un problème narratif extraordinaire.
Alors, justement...
Je sais pas si j'étais à la hauteur du problème, mais le problème, il était extraordinaire.
En tout cas, c'est un problème qui s'est posé à vous, parce que là, on est arrivé au moment où on va parler de vous comme écrivain apparu, parce que vous étiez écrivain depuis un bout de temps, mais là, on va parler de vous qui se manifeste comme écrivain. Oui. Votre écriture qui apparaît à l'extérieur. Ce que j'ai lu, d'ailleurs, c'était au moment où on s'était rencontrés aussi, on a parlé de ça déjà, vous et moi, au moment de Music Hall, justement, dont vous parlez. Vous m'aviez dit...
On avait
dit
ça à
un moment,
Radio-Canada.
Hein, exactement, on avait parlé de ça. Moi, je suis arrivée ici en 98. Alors, il faut déjà que je vous dise que quand je suis arrivée ici en 98, en été, à l'automne, j'ai vu une vague, Gaëtan Soucy, et partout. En plus, je venais de France. Hein. Alors, il ne faut pas oublier. Alors, j'avais une espèce de vague des deux côtés de l'océan. Et puis, je me suis dit, et c'est vrai, je m'étais posé la même question en 94, au moment où j'ai découvert la littérature québécoise. Mais après, quand je suis arrivée ici pour vivre ici physiquement, je me suis dit, mais qui c'est ce Gaëtan Soucy? Alors, la première chose que j'ai faite, évidemment, c'est d'aller acheter la petite fille qui aimait trop les allumettes. Mais la première fois que j'ai eu la chance de vous interviewer, c'était à propos de Music Hall. Et vous m'avez dit, oh, les gens m'énervent parce qu'ils me parlent tout le temps du fait que j'ai écrit la petite fille qui aimait trop les allumettes en 3 semaines, comme si c'était un critère. Alors, voici un livre que je n'avais pas réussi à écrire. Et donc, c'est en fait, si j'ai bien compris dans votre parcours, écrire Music Hall, c'était... d'après ce que vous venez de dire, un problème qui s'est posé à vous pendant une quinzaine d'années.
Oui.
Et que vous n'avez, parce que vous avez commencé à l'écrire dans les années 80, on a même imaginé, parce que dans les scènes de démolition, il y a aussi ces gens qui tombent, parce qu'ils tombent des échafaudages, etc. On a cru que c'était directement lié au 11 septembre, et ainsi de suite.
Non,
alors, donc là, ma question, c'est que vous étiez confronté à un problème. Je pense que tout écrivain a connu ça à un moment, physiquement aussi.
Mmh.
Et en même temps, vous écrivez de manière quasiment, je dirais, presque en rafale, ce que vous avez appelé vous-même la trilogie du pardon. Ma question est, quel est le rapport entre le fait que d'un côté, vous étiez bloqué avec ce livre-là, et de l'autre côté, vous écrivez de manière quasiment fluide trois romans à la suite, et quel roman ?
Oui, mais en fait, je ne parlais pas de trilogie du pardon, parce qu'il y en a 4, je parlais d'un cycle du pardon.
Ah bon, alors moi j'avais compris...
À la fois l'Immaculée Conception, l'acquittement, la petite fille, et puis Musical.
Ah, j'avais l'impression que Musical était comme la conclusion, mais hors de...
Non, mais il est... Bon. Je veux dire, j'ai écrit les 3 livres qui l'ont précédé, quant à la chronologie de la publication,
oui.
Je les ai écrits faute de pouvoir résoudre justement le problème qui se posait pour moi avec Musical. Ah, ce problème-là était le suivant. Et ça, je vous assure que c'est vrai. C'était le genre de choses qui m'empêchaient de dormir la nuit, qui pouvait me jeter dans des désespoirs artistiques. Et puis, c'est vrai, ça, ces affaires-là. Tu sais, on s'imagine tout le temps, oh, le poète qui a, tu sais, comme si on prenait des postures, mais c'est terrible ce qu'on vit. Parce que justement, on ne peut véritablement faire quelque chose dans un domaine artistique donné, et je dis pas que je suis parvenu, mais je sais qu'on ne peut faire quelque chose dans un de ces domaines-là que si on y engage le sens même de sa vie. Donc, c'est le sens même de son existence qui est en jeu, là, quand on... Bon. Alors, voilà.
Oui,
le problème qui se posait avec moi, pour moi, avec Musical, c'est-à-dire, comment faire à la fois une tragédie et un roman picaresque?
Oui.
Parce que là, il y a comme une... C'est vraiment... D'un point de vue narratif, c'était comme la quadrature du cercle. Pourquoi? Parce que dans la tragédie, la fin est inscrite dans le début. C'est une boucle.
Hein? Oui.
Hein? On annonce à, hein, à la mère d'Œdipe, qu'un jour son enfant va tuer son père et coucher avec sa mère. Et là, ils font tout pour se débarrasser d'Œdipe, pour pas que cette chose-là advienne, mais tout ce qu'ils font pour que ça n'advienne pas fait en sorte que la chose advienne. C'est ça le principe de la tragédie. La fin est inscrite indélébilement dans le début. Alors que le picaresque, c'est le contraire. Le picaresque, c'est la prolifération des aventures. Alors, il me fallait à la fois faire une tragédie et à la fois maintenir un ton picaresque. Et ce qui m'a aidé, ça a été la solution qui a finalement fait que, après 15 ans d'hésitation, j'ai pu, en l'espace d'à peine 2 mois, finaliser toute la chose. Ça a été de trouver une structure qui tenait des deux. C'est-à-dire tenait de l'ordre inscrit déjà depuis le début et puis de l'aléatoire. Non, mais ça va jusqu'à des problèmes abstraits comme ça. Et là, je me suis dit, c'est un château de cartes. Enfin, c'est un jeu de cartes. Parce que dans le jeu de cartes, on a l'ordre, puis on a l'absolument aléatoire aussi. Alors là, j'ai décidé de faire en sorte que mon livre contienne 52 chapitres qui contiendraient à l'intérieur 2 jokers. Ça a l'air très abstrait, sans doute dit comme ça. Mais voilà, c'est pour vous dire que...
Mais c'est un roman qui
en fonctionne par problème qu'on veut résoudre, comme un chimiste ou un physicien peut à un moment donné se demander mais pourquoi est-ce que lorsque on met du sable sur une plaque vibrante, le sable va d'une façon, enfin se comporte de telle façon plutôt que de telle autre. Et là, il pense à ce problème-là et puis.
Mais j'abonderais tout à fait dans ce sens. J'ai souvent dit qu'écrire, c'est répondre à la question comment faire plutôt que quoi dire. Parce que souvent, on sait quoi dire, mais comment on va le dire? Alors, voilà. Et puis, pour parler des chorégraphes, c'est vrai qu'une longue fréquentation des chorégraphes m'a aussi appris que quand ils se disent « bon, ben voilà, je vais faire une pièce sur ça », après ça, pendant X temps, ils se consacrent à des postures corps, et que les ayant toutes mis ensemble, finalement, il se dit « ah oui, c'est vrai, je voulais dire ça, ben voilà ». Mais le sens revient après, à travers la forme. On pourrait parler, je suis certaine, vous et moi,
je pense au travail de Ginette Lorrain, là, tu sais, quelle longue réflexion sur la posture.
Tout à fait. Mais justement, Music Hall... Finalement, il est apparu dans le sens où il devait apparaître, c'est-à-dire à la fin. Et d'une certaine façon, il boucle quelque chose parce qu'il résume d'abord presque tous les thèmes qu'on trouve chez vous depuis l'Immaculée Conception, qui sont vraiment les thèmes récurrents. Et puis surtout cette vision du monde, à la fois, je crois que le mot qui revient le plus souvent dans Music Hall, c'est le mot démuni. C'est cette vision du monde à la fois tragique et picaresque, mais c'est-à-dire à la fois désespérée et puis en même temps dans laquelle on peut encore faire des choses, et il peut encore arriver de quelque chose de magique, comme une grenouille qui chante, par exemple, ou une autruche, parce que, et ça c'est encore une fois un autre thème chez vous, ces animaux qu'on trouve dans tous vos romans et qui sont plutôt anthropomorphiques aussi, qui jouent un rôle presque humain. Il y a bien sûr le thème de la mémoire, ce que lui, dans son cas, Thomas, le héros de Music Hall, mais évidemment la mémoire qu'on trouve dans la petite fille qui aimait trop les allumettes, mais aussi ce qui meut Louis Bapaume, qui est votre héros de l'acquittement, mais qui meut aussi l'héroïne de votre premier roman, l'Immaculée Conception, c'est-à-dire retourner vers quelque chose qui a eu lieu et dont on ne peut se débarrasser, qu'il faut aller chercher, creuser. Il y a les thèmes de la gémellité, la relation à la fraternité, ou ô combien tragique ou difficile, mais en tout cas toujours douloureuse. Et oui. Puis cette relation, bien sûr, aux parents, à des parents qui sont toujours des tortionnaires d'une certaine façon, y compris, alors évidemment dans La petite fille qui aimait trop les allumettes, où c'est presque pour moi le livre qui réunit toutes les souffrances christiques possibles, oui. Comme même Cato Blépas, avec cette mère complètement omniprésente. Ouais. Et on dirait que Music Hall, effectivement, en plus avec bon, ce livre qui est un livre long, alors que vous, les autres étaient plus courts, on disait toujours, c'est le spécialiste des livres, des romans courts. Vraiment, le château qui a réussi la quadrature du cercle. Est-ce que pour vous, c'est vraiment un pan entier et fini de votre œuvre, et est-ce que vous passez à autre chose après ça ou...
Oui, il est certain que je... Enfin, il s'est passé, j'ai eu une vie dans les dernières années, bon, sans évidemment entrer dans des détails, ça n'a aucun intérêt, mais il s'est passé plusieurs choses dans ma vie privée et tout ça. Donc ça a déjà été une occasion de distraction, hein, de divertissement. Mais il était entendu pour moi aussi, par ailleurs, et j'en avais avisé mes éditeurs que Écrire musical marquait certainement pour moi la fin d'une période créatrice, parce que j'ai quand même écrit en moins environ en 6-7 ans, publié à peu près 1000 pages.
C'est fulgurant, c'est ça, c'est vraiment.
Et mais là je disais bon, après je vais voir, hein? Et j'éprouvais le besoin de renouveler entièrement le sens que je donnais à l'écriture. Et là, je pense que je suis prêt pour un retour très actif à l'écriture. Mais il m'aura fallu cette période-là. Et il y a aussi quelque chose dont il faut tout de même parler. C'est que, alors, vous avez dit, lorsque je suis arrivé au Québec... J'entendais parler de cet auteur et puis...
C'est une réalité.
Oui, non, mais ça a été une expérience extrêmement pénible pour moi. Alors, je ne le dis pas par...
De devenir un personnage public?
Oui, ça a été terrible. Ça a été terrible. Et à telle enseigne que, à un certain moment, j'ai dit à mon attaché de presse, alors ça, c'est... C'est après que ma pièce ait été montée par Denis Marlowe, oui. Ma pièce Cato Blépas. C'est-à-dire oui. Que, bon, pour la pièce de théâtre, là, j'étais prête à accorder toutes les entrevues qu'on me proposait et tout ça. Même chose, bon, avec Musical, même si j'ai été moins généreux, mais enfin, j'y contribuais par solidarité, vraiment, par solidarité pour mes éditeurs, par solidarité pour mes collaborateurs. Je me disais, j'ai un travail à faire pour, de ce point de vue-là, il faut que j'assume ce qu'on appelle dans le milieu le service après-vente. Mais une fois que cela a été fait, j'ai émis le désir très, très, très ferme de tout refuser, donc de me retirer complètement de... Bon. Alors, donc, il y a trois choses qui ont contribué à faire que, dans les dernières années, je me suis tenu loin de la littérature, à tout le moins d'un point de vue éditorial, donc de grandes difficultés dans ma vie privée. Un épuisement dû au fait que j'avais comme tari une source qui valait de musical à musical en refermant la boucle. Et troisièmement, c'est ça, une sorte de refus là, du monde médiatique.
Moi, je retiendrai là aussi un parachèvement, parce qu'il faut quand même dire que c'est aussi dans cette fulgurance un parachèvement. Vous vous êtes longtemps préparé à écrire cette série, et puis vous l'avez écrite, et puis il y a quand même quelque chose, c'est ça, c'est un parachèvement, quelque chose qui est parfait comme ça. Alors, j'aimerais beaucoup qu'on parle de... Parce que c'est pas du tout anodin que vous ayez dit que c'était le cycle du pardon. Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez appris à lire dans la Bible. Et effectivement, quand on lit les romans, je me suis demandé, moi, comment j'allais parler de votre écriture et de l'effet qu'elle m'avait fait, et qu'elle me faisait toujours. Et j'ai trouvé un seul mot, et c'est ce mot le plus juste que j'ai trouvé, c'est le mot « médusé ». Parce que vraiment, comme dans le mythe de la méduse, on ne voit pas ce qu'on croit voir, et finalement, quand on referme le livre, on sait qu'on a vu, mais d'une manière détournée, et puis parfois dans l'effroi, parce qu'il y a des scènes qui sont parfois très difficiles, et puis toujours en étant médusé dans l'autre sens, qui est d'être perdu. C'est-à-dire de ne pas trouver, par exemple, de réponse au fait que dans l'acquittement, j'ai pas compris, moi, qu'est-ce qui est arrivé finalement à votre. Ou j'ai non, compris fait... 50 000 choses.
Oui, mais, c'est fait pour ça. Là. C'est pas de ma part une maladresse.
Je voulais qu'on parle justement d'abord du thème, de ce thème.
D'ailleurs, le gars qui a fait le film caché, il a certainement lu l'acquittement. Là.
Que moi, je trouvais, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai trouvé, moi, que dans La petite fille qui aimait trop les allumettes, il y avait vraiment cette espèce d'apothéose de toutes les douleurs christiques du monde. Elles sont concentrées là-dedans et on les connaît tous. Tout le monde les connaît, parce qu'on les connaît, parce qu'on appartient à cette civilisation. On ne les a pas vécues, mais on les connaît. Et on les trouve dans votre livre. Alors, ça nous fait un espèce d'effet sidérant.
Bon. Ben, vous m'envoyez ravi. Mais ce que vous êtes en train de me dire, Aline, c'est et ce que vous me demandez implicitement, c'est pourquoi avez-vous l'air de cela, Gaétan, quand on vous voit de dos en train de marcher? Alors, comment voulez-vous que je sache à quoi je ressemble vu de dos en train de marcher?
Levez-vous que je vous vois marcher de dos.
Non, mais moi non, je suis vraiment la dernière personne placée pour ça, pour pouvoir avoir le moindre indice d'explication là-dessus. Non, j'ai toujours maintenu ce point de vue, à savoir que l'auteur n'a pas d'autorité particulière. Bon, je peux vous dire des choses comme, par exemple, vous dites l'acquittement. Alors, je peux vous dire des choses comme, dans l'acquittement, un des problèmes qui se posait pour moi, parce qu'on parlait de problèmes tout à l'heure, c'était comment faire un roman policier à l'envers. C'est-à-dire, le roman policier commence d'abord par poser une énigme, et ensuite, on la résout, et c'est ça qui est toujours une déception dans le roman policier, c'est qu'on se dit, OK, c'était ça.
Oui, mais...
La concierge avait une jumelle, bon, des trucs comme ça. Mais alors que moi, j'ai essayé de faire l'inverse, c'est-à-dire de produire un livre qui arrive à une énigme à la fin.
Oui. Bon.
Mais maintenant, ça, cette idée qui est un peu... qui peut sembler désincarnée, c'est-à-dire que... qui semble relever d'un pur parti pris formel, c'est-à-dire il a décidé de se poser cette question-là, draine parce qu'elle est une idée forte et qu'elle était une idée faite pour moi, a drainé justement tout ce réseau de symboles, de préoccupations, d'angoisses. Voilà, c'est ça qu'un écrivain doit... Lorsque j'ai eu l'idée de musical, c'était un samedi matin, il était 11h30, en 1987, j'allais acheter ma presse du samedi, et tout à coup, je me suis dit, il faut que je raconte l'histoire de la grenouille comme l'histoire de la grenouille qui est racontée dans un cartoon de Bugs Bunny. Bon. Mais j'ai senti là, justement, qu'il n'y avait pas juste un problème, des problèmes formels qui allaient se poser à moi, mais que ces problèmes-là allaient, comme je le disais à l'instant, drainer tout ce que j'avais à dire sur le monde, finalement.
Oui, mais justement, tout ce que, ben, c'est aussi une vision du monde américain, avec cette statue de la liberté qui prend tellement de place, mais qui ne veut rien dire. Bon, il y a plein de symboles. Mais vous avez dit quand même vous-même, de votre propre cycle, que c'était celui du pardon. Ce n'est pas un mot anodin dans notre société. Donc, et c'est vrai qu'à chaque fois, il y a... Et bien sûr, vous, tout à l'heure, vous disiez, quand je lis les textes de mes étudiants, je sais s'ils font référence à telle chose ou pas. Vos livres à vous sont truffés de plusieurs strates de couches de lecture possibles dans lesquelles on voit les références, mais aussi des écrivains et des philosophes nommément cités ou leurs livres cités avec des allusions très directes ou moins directes. Mais... c'est vraiment aussi beaucoup un cycle sur les péchés et les pardons du monde. Et c'est irrésoluble, évidemment.
Oui, mais bien entendu.
Est-ce que c'est toujours j'apprendrai la vision
rien,
que vous avez ?
J'apprendrai rien à personne si je dis que on va trouver la résolution du problème israélo-palestinien le jour où les Palestiniens vont pardonner aux Israéliens et que les Israéliens vont pardonner aux Palestiniens. Ah, bon. Alors, le pardon, pour moi, quand j'ai... Je le regrette un peu, mais parce que, disant cela, je semblais prétendre en savoir davantage que mon lecteur sur mes propres livres. Mais au fond, c'est une étoile que je lançais au firmament. C'était une étoile que je suggérais aux mages. Et il me semblait intuitivement qu'il y avait quelque chose dans mon travail qui relevait d'une problématique du pardon. Mais mon Dieu, si j'avais quelque chose... Si j'avais une théorie du pardon... Enfin, je l'aurais énoncé. Je suis pas
non,
cachotier.
Mais est-ce qu'un écrivain est là pour donner...
Mais mon œuvre semble relever de cela, oui.
Mais est-ce qu'un écrivain est là pour donner la solution? Certainement pas. Il est là pour pointer les choses. Enfin, je le pense. Je voudrais vous poser deux dernières questions avant de proposer à notre assistante de vous poser les leurs. Des deux questions que je me suis proposé de poser à tout le monde. D'abord, quel est le livre de vous que vous préférez?
Non, c'est quoi la partie de votre corps que vous préférez?
Ça dépend des circonstances.
C'est la même chose pour moi. J'ai toujours la... Oh non, chacun des livres représente pour moi à la fois... a pour moi un charme particulier qui peut être lié à toutes sortes de choses. Il peut être lié aux circonstances qui... Et en même temps, chacun de mes livres m'apparaît aussi comme un échec aussi. C'est difficile. On aimerait finalement... et vraiment, mon opinion change là-dessus à chaque fois. J'ai dit à un de mes amis... David, cette semaine, musical, c'est ce que j'ai écrit de mieux. Enfin, je ne suis pas arrivé, je n'ai pas sonné à sa porte pour lui déclarer ça, mais puisqu'on en parlait, j'ai dit, bon, je pense que c'est ça que j'ai fait de mieux. Mais il m'arrive de penser que c'est un autre et tous les autres.
Est-ce que vous faites partie des écrivains qui prennent justement une publication pour un malentendu? C'est-à-dire que finalement, on n'a jamais vraiment la réception ou la...
Ah ben ça...
Oui, il y a quelque chose de ça qui fait aussi qu'on finalement, on l'a fait, mais ce n'est pas ça qu'on voulait faire. Alors, il faut recommencer.
Non, mais ça, il y a toujours un malentendu fondamental, mais qui c'est un malentendu qui fait partie de la structure même... du monde éditorial, mais aussi qui relève du rapport que l'on entretient avec soi-même. Vous savez, il y a un mélange de... Lorsque je vois... Tu sais, il m'arrive parfois de tomber, je sais pas, mais je suis en train de fureter dans une librairie, puis tout à coup, je vois, je sais pas, musical. Et... Alors, à la fois, j'ai un sentiment étrange de respect pour celui que j'étais. Hein? C'est-à-dire, je me suis dit, il fut un temps où j'étais capable de faire ces choses-là. Mais en même temps, un sentiment de la futilité, tout ça, puis en même temps... Sentiment que on eût pu faire mieux.
Oui.
On eût pu faire mieux. Mais ce on-là n'a tellement plus rapport avec ce que je suis et peut-être même avec ce qu'un être humain peut être.
Hein? Est-ce que Gaëtan Soucy lit Gaëtan Soucy?
Non.
Non.
Ben enfin, je le lis.
Ben encore une
non
fois
seulement avez... je me lis, mais je me réécris. Mais, oui, mais c'est...
Une fois publié, je veux dire. Est-ce que...
Oh non, c'est pas... Bon, je vais le faire pour des raisons professionnelles.
Oui.
Il y a des moments, il faut relire les épreuves et tout ça. Mais... Ou ça peut m'arriver lorsque... je sais pas... un ami, une amie... me fait référence à telle chose dans mes livres, là, je peux aller y jeter un coup d'œil. Mais sinon, non, je suis pas... Il y a un dégoût de soi hein, qui accompagne ultimement... Vous savez, on écrit peut-être un peu pour laisser sa trace hein, dans le temps. Et c'est d'ailleurs une des problématiques, je dirais, métaphysiques de l'acquittement, c'est-à-dire comment laisser ses traces dans la neige, mais en même temps, cette volonté de trace se double d'un paradoxal dégoût, de laisser de soi des
mais
choses mal propres.
Justement, quel est le rapport de votre fille à votre littérature? À son père écrivain? Est-ce qu'elle a un rapport à son père écrivain?
Non, je préférais pas parler. C'est trop... Bon.
Alors, en tout cas, les lecteurs et le public, ça, c'est sûr qu'ils ont leur propre rapport. Je vous remercie infiniment. On aurait pu continuer à parler encore très longtemps, mais je voudrais que
notre
public ait aussi l'occasion de se servir des micros qui sont là pour poser vos propres questions. Merci beaucoup. Allez-y, il faut aller au micro. Oui.
Alors, comment imaginez-vous votre parcours d'écrivain si vous n'étiez pas né dans une culture de langue française, si vous étiez, disons, né dans une culture du Kazakhstan, par exemple?
Une culture quoi?
Kazakhstan.
Kazakhstan,
bon,
oui.
Par rapport à ce film qui est paru, bon, disons. À une autre culture, dans une autre culture, pas dans une culture de langue française, dans une langue inconnue.
Oui. Et c'est quoi, vous me demandez?
Comment vous imaginez votre parcours d'écrivain?
Non, mais je pense que le rapport à... Le rapport à l'écriture se situe à un point de vue tellement fondamental que l'importance mondiale de la langue dans laquelle on s'exprime a une importance finalement secondaire. C'est-à-dire, s'il s'était produit pour moi... dans une langue très minoritaire, une langue parlée peut-être uniquement par quelques millions d'êtres. Je ne sais pas, si j'étais né en Finlande, par exemple, il se serait produit la même chose qu'il s'est produit pour moi en français. Et je suis certain que j'aurais essayé de m'exprimer en finnois, finlandais, comme disent les gens. D'ailleurs, c'est une erreur, c'est en finnois. Mais... me serait exprimé en finnois avec la même conviction que je m'exprime en français. Mais ce qu'il y a d'intéressant dans le cas des écrivains québécois, c'est que on est à la fois, on participe à la fois d'une écriture, d'une langue, mon Dieu, universelle, enfin, qui a une histoire considérable et qui a certainement, en tant que langage véhiculaire, une portée que n'aurait pas le finnois ou le Kazakhstan. D'ailleurs, je ne sais même pas si au Kazakhstan on parle le Kazakhstan. Y a-t-il une langue qui est le Kazakhstan? Est-ce que c'est... Oui, présumons-le. Donc, on parle, on écrit dans un idiome à portée universelle, mais en même temps, on est minoritaire en tant que Québécois. Enfin, moi, je l'éprouve beaucoup, ce sentiment de minorité. C'est-à-dire, je me sens pas comme... mais là, comprenez bien là, que je m'identifie pas du tout à ces figures illustres que je vais évoquer, mais c'est simplement pour marquer une intention. Je me sens moins comme Voltaire écrivant en français que Kafka écrivant en allemand, c'est-à-dire un juif tchèque qui écrit en allemand, davantage que un homme comme Voltaire qui était sûr d'écrire dans la langue qui était l'universalité même. Hein? C'était le problème de la langue.
Pourtant, vous, dès le départ, vous avez été tout de suite publié en France, justement, et ouais. Vous êtes presque l'exemple inverse de ce que vous dites d'une certaine façon, ce qui n'empêche pas justement de souligner presque par le contraire ce que vous dites. Et puis l'autre question, c'est que vous êtes aussi traduit dans 18 langues. Est-ce que vous êtes déjà allé d'ailleurs dans les pays où vos livres sont traduits?
Oui,
est-ce que vous y êtes invité? Quel est ce rapport-là? Est-ce que ça change le rapport avec ce public
différent?
Non,
mais ça a été une véritable calamité sur ma vie dans les dernières années que de devoir voyager à ce point-là. Je suis quelqu'un qui déteste voyager. J'en ai rien à foutre, moi, des grandes capitales d'Europe et tout ça. Là. Je sais pas ce que... Je suis toujours malade quand je vais là. Je déteste voyager. Et puis bon, cela dit, évidemment, j'ai toujours été très bien accueilli. Je me suis fait des amis, heureusement, partout dans ces pays-là. Mais c'était blague à part. Là. On comprendra que j'ai fait une blague. Mais blague à part, c'était très, très éprouvant pour moi. Et... oui, je pense que le complexe du Québécois écrivain se trouve d'abord dans sa tête. Parce que dans les faits, on a toujours...
Ça existe, c'est vrai. Il existe des raisons qui sont effectives. Et puis après, il y a la façon de se penser.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que en Finlande, ou en Suède, ou en Espagne, ou en Italie... j'étais pas perçu comme un écrivain provincial.
Non.
C'était voilà.
Non, bien sûr, mais c'est un rapport particulier dans la francophonie, on va dire. Bon, mais est-ce que l'idée que
les Parisiens sont chiants un petit peu sur le plan de l'édition, là, mais ça se tire dans
entre
le
autres,
pied, là.
Oui, il y a ça mais il y a des réalités.
Ouais, ouais.
Donc, mais le fait que vos livres existent dans d'autres langues, en dehors du fait de vous y rendre physiquement, mais le fait qu'ils traversent l'espace, le temps et les langues. Ça, c'est quelque chose qui vous importe, qui vous parle?
Ben oui, écoutez, c'est... Bon, d'une part, c'est flatteur, mais je ne pense pas que ce soit ça qui importe.
Non, mais c'est d'être compris.
J'étais heureux de voir qu'un tel investissement dans la particularité de mon imaginaire et dans la particularité de ma langue... Et quand je dis mon imaginaire et ma langue, je ne veux pas en parler de manière narcissique. Je veux dire l'imaginaire auquel j'appartiens et la langue auquel j'appartiens. Donc, celui, en quelque sorte, de ma communauté a trouvé sa résonance. Mais déjà, disant cela, je me donne tort parce que, je ne sais pas, encore une fois, pour citer un grand nom auquel je n'oserais jamais de la vie me comparer, mais... Beckett n'aurait pas pu être autre chose qu'un Irlandais. mais il ne se réduit pas à l'Irlande non plus. C'est-à-dire, ça n'a pas été son but de faire en sorte que l'Irlande parle à travers sa littérature. Donc, je pense que un écrivain doit d'abord de dire sa vérité. Sa vérité, toutefois, ne doit pas s'identifier, encore une fois, à une complaisance narcissique. Là. Être vrai, ça consiste pas à raconter avec qui j'ai couché, puis comment c'était, puis ça m'apparaît absolument ignoble. Ça.
Non, mais c'est peut-être de s'en rappeler pour un jour le mettre quelque part. Sans que ça ressorte.
Non, mais ça, qu'ils mettent ça dans leur boîte, là, mais qu'ils ne viennent pas mettre ça sur les... Mais, non, parce que ce n'est pas qu'il soit inintéressant de raconter une expérience personnelle. Au contraire, on a regardé encore un cheveu, là. Et il y en a plein ici, là, ceux qui voudront s'en procurer.
Gratuitement.
Ouais. Si on pense à Adolphe de Benjamin Constant, qui est pour moi un livre tout à fait essentiel, c'est vrai que c'est une œuvre qu'on désignerait peut-être aujourd'hui comme une œuvre d'autofiction. Mais c'est que justement, Benjamin Constant n'est pas intéressé par lui-même là-dedans. Mmh. Il est intéressé par le problème que l'amour pose. Mmh. Hein, de la même manière, Proust, c'est pas un narcissique. Là. Mais ceux qui n'ont rien d'autre à dire que j'ai couché avec mon prof d'université, puis il bandait le mou, puis tout, du colvert. Tu sais, pourquoi ça?
D'autres questions? Profitez-en parce qu'il n'est pas là souvent.
Je disparais pour 5 ans. Là.
Ben oui, il restera ses cheveux. Non, et ses livres surtout. Alors c'est surtout là-dessus que je voudrais conclure. Allez-y.
Oui, bien entendu, j'écris. Bon, d'abord, j'envoie beaucoup de courriels, mais je les envoie pas à n'importe qui. C'est... Par exemple, c'est amusant peut-être à mentionner. La personne à qui j'envoie le plus de courriels, c'est l'écrivain français Éric Chevillard, que j'ai jamais rencontré. Mais on est devenus des amis très intimes, juste à s'envoyer comme ça des courriels. Et je me rends compte, c'était pas du tout l'intention, mais je me rends compte rétrospectivement que ce sont des textes finalement très littéraires. J'écris lorsque je fais ça. Maintenant, ce qui m'importe, là, je suis habité par le projet d'un livre très particulier. Et c'est de savoir si ce livre-là aura suffisamment de force pour m'accaparer de manière absolue durant peut-être des mois, voire des années. C'est ça qui est très difficile à prévoir. Et c'est ça qui fait de nous aussi des gens invivables pour nos proches, mais vraiment. Parce que il faut, pour écrire un livre, que tout y soit sacrifié. Et j'ai peut-être la naïveté de croire qu'en gagnant de l'âge, on se bonifie. Enfin, ce serait la seule consolation au fait de vieillir. Mais... Et je ne sais plus si j'aurais le culot d'imposer à ceux qui m'entourent ce que je leur ai déjà imposé pour écrire les livres que j'écris. Remarquez que je battais personne. Là. Je pense que j'étais un homme juste et bon. Mais je suis devenu plus juste et meilleur encore et je ne suis plus certain que je serais capable d'avoir cet égocentrisme-là. Enfin, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas de l'égocentrisme. Il y a des gens qui publient là, qui sont égocentriques. Il y en a même 99,9%. Mais moi, je vous parle du tout petit pourcentage de véritables écrivains qui existent. Ce ne sont pas des gens égocentriques. Ils sont opéra-centriques. C'est l'œuvre qui est au centre. Et voilà, j'imagine que Beethoven, tu sais, quand il écrivait l'Amicitia Solemnis, là, on ne devait pas le déranger aisément. Là.
C'est ça, mais ça demande à être coupé du monde parce qu'il s'opère quelque chose pendant ce temps-là.
Ben oui, mais c'est parce qu'il y a cette croyance qui est évidemment une croyance névrotique que l'œuvre sur laquelle on travaille, cela manque à l'univers pour que l'univers soit complet. Mais c'est pas rien, ça,
bien
de
sûr,
penser
mais
ça.
Est-ce qu'on le ferait si ce n'était pas ce qu'on croyait?
Ben
est-ce
oui,
qu'on
voilà.
le ferait, sinon?
Sinon, il n'y aurait pas de littérature sans cette croyance névrotique-là.
D'autres questions?
Oui, mais ben, oui, si vous en... Oui.
Je voudrais savoir, parce que je suis en train de rédiger un mémoire de maîtrise et vous êtes un des deux auteurs dont il est sujet, et puis ça porte sur la représentation de la femme dans la littérature québécoise. Et puis, à la lumière de ça, je voudrais savoir quelles questions vous vous posez, vous, dans la construction de personnages féminins ou dans le rapport de l'un avec l'autre, avec un grand A.
D'abord, ce qui serait bien, c'est que vous veniez me parler après. C'est-à-dire que, parce que c'est des questions, si c'est un mémoire de maîtrise qui est engagé, qui mériterait davantage qu'une simple réponse de quelques minutes que je peux vous donner là. Ce que je vous dirais, c'est que, bon, j'ai toujours un groupe d'amis de filles qui se réunissaient juste entre filles. Et puis ça, et une année, donc à date fixe, là, ils se réunissaient. Là. Et une année, ils m'ont invité parce qu'ils disaient que j'étais une fille honoris causa. Et ça a été une des choses les plus charmantes qu'on m'ait dites. Non, mais blague à part. Je crois que La petite fille qui aimait trop les allumettes est un livre profondément féministe. Je crois que tous mes livres sont profondément féministes. Au bon sens du terme, c'est-à-dire pas au sens où j'essaie de jouer aux hommes roses pour pouvoir... Non, il n'y a rien d'hypocrite là-dedans, mais je pense que j'ai pas failli de ce point de vue-là. Hein, j'ai pas eu de défaillance de ce point de vue-là, c'est-à-dire... Mon œuvre, les livres que j'ai publiés, là, vous comprenez, c'est par commodité que je dis mon œuvre. C'est tout de même, je dis tout de même parce que il y a de longues périodes de remise en question là, derrière ce que je vais vous avouer là. Mais je pense qu'au bout du compte, ce n'est pas une œuvre nuisible. Je pense qu'elle est imprégnée d'une humanité valable, je ne sais, mais à tout le moins, très certainement, sincère. Et si tant est qu'on puisse tirer quelques messages, que ce soit d'une œuvre littéraire, mais en tout cas, je pense que mon travail irait dans le sens d'une inspiration à la réconciliation. Mais venez me voir quelques minutes tantôt pour qu'on en parle quand même. C'est promis? Oui? OK.
D'autres questions? comme si vous disiez que vous n'êtes pas certain que cette espèce de pulsion d'urgence d'écrire que vous avez eue, je pense, pour les livres que vous avez déjà écrits, hein, comme si là, c'est l'importance de ce désir, cette urgence d'écrire, c'est moins important donc que les relations que vous avez actuellement avec vos proches, si j'ai bien compris ce que vous disiez. C'est donc comme si vous aviez peut-être dit quelque chose de très important qui était important pour vous de dire, et que là maintenant c'était plutôt de vivre, ou l'importance était ailleurs.
Oui. Oui, voilà. Il est certain que j'ai tiré un sentiment de culpabilité de l'expérience d'écriture que j'ai connue. Il y a peut-être un fond de culpabilité chrétienne là, qui entre aussi en ligne de compte là-dedans. Je ne sais pas, j'ouvre ça comme hypothèse. Mais le pire, c'est qu'il doit y avoir justement des gens qui écrivent des livres comme ça puis qui se calissent complètement de leurs proches, de c'est ça. Puis moi, je pense que finalement, j'étais assez bien avec mes proches, j'étais assez correct, j'étais assez généreux et aimable et dévoué et tout ça. Puis c'est moi qui m'en confesse. Alors vous allez croire que c'est... Mais c'est toujours comme ça. Hein? C'est peut-être une affaire de...
C'est-à-dire que les proches ont toujours leur mot à dire aussi.
Je vois deux, trois personnes dans la salle qui font partie de mes proches et ils pourront me dire après ce qu'ils en ont parlé. Je n'ai surtout pas au micro là, pour le dire. Là.
Je pense qu'on va devoir conclure.
Oui, oui.
Puis... Et conclure sur le fait que, d'abord et avant tout, il y a, bien sûr, je vous invite tous et toutes à lire et relire les livres de Gaëtan Soucy. Et puis, nous attendrons tant qu'il faudra et fermement le prochain livre avec le plaisir de replonger dans votre univers, même s'il aura évolué forcément entre-temps, comme vous le savez, peut-être même pas encore qu'il va évoluer. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être venu.
C'est moi qui vous remercie, Aline.
Et puis,
merci beaucoup.
Merci à tous.